Radio Barque, donc, Marie Zarditi, notre invitée du jour. Je rappelle donc que vous êtes présidente aujourd'hui encore de l'association écologiste Éclat et que vous avez milité depuis je ne sais combien d'années, vous allez nous le dire d'ailleurs, à la fois comme élue, comme militante, toujours évidemment dans l'écologie. Et comme vient de l'évoquer Michel, il y a un certain nombre d'actualités sur la Narbonnaise et dans l'Aude qui nous concernent et qui vous concerne, j'imagine, et qui vous intéresse au premier chef, Marie Zarditi. Alors d'abord, Éclat est une association qui a été fondée il y a une trentaine d'années.
Alors voilà, c'est paru au JO le 9 juin 1988, et nous allons, pas le 9, mais le 7 juin 2018, fêter nos 30 ans, en essayant de faire un peu un retour sur à quoi ça sert dans la durée, finalement, une association d'environnement sur un territoire, en faisant peut-être un décompte de tout le temps, est-ce que c'est intéressant, tout le temps investi. Je rappelle qu'on a une association très particulière, on a zéro financement, zéro subvention depuis 30 ans, pas même, ce qui me fait quand même râler, quand on est nommé dans des trucs officiels comme le CODERS, qui est une commission départementale ou d'autres commissions départementales, et qu'on doit se déplacer de Narbonne à Carcassonne pour y aller, on n'a même pas le dédommagement des transports, ce qui serait quand même le strict minimum, parce que ça finit par faire pour une association qui a zéro subvention. Voilà.
Oui.
Donc on va fêter, voilà, je le dis à tous ceux qui écoutent, là, ce sera le 7, c'est un truc public, ce sera le 7 juin à mon plaisir, à partir du milieu de l'après-midi, on va dire, on essaiera d'amener des gens qui ont connu le début, de faire un témoignage. On essaiera d'analyser ensemble ce qu'on a pu faire, mais à quoi ça sert, de se projeter vers l'avenir. Enfin, voilà. C'est un truc qui nous paraît utile à faire, là, parce que, voilà, ça tombe juste pour les 30 ans.
Alors, 1988-2018, c'est une trentaine d'années, c'est une grande page de l'histoire de l'écologie en France, justement. C'était le début de cette association, c'était un petit peu les débuts de la présence et de la conscience écologiste, écologique en France. 30 ans plus tard, vous allez, Marie Zarditi, nous aider à brosser un petit peu un tableau, en tout cas, votre ressenti là-dessus.
Ben, c'est sûr qu'il y a des choses qui ont énormément bougé, comme je dis en rigolant. On se faisait quand même regarder de très très haut au début des années 80. Quand on faisait une proposition, on vous regardait en souriant, en disant « bon, alors vous êtes des gentils bonnets ». Au niveau national, comme vous le savez, enfin, je suis docteur en physique nucléaire, donc j'ai aussi milité au Vert. Et au niveau national, quand il y avait des débats à la télé, les télés, elles appelaient au dernier moment, elles disaient, ah bon, on a que des nucléaristes, faudrait qu'on ait un opposant. Alors ils téléphonaient au Vert. La veille, donc il n'y avait jamais personne, et quand il y avait quelqu'un qui levait la main, qui était très content de passer à la télé, il se faisait évidemment ramasser. Et donc je leur ai dit, bon, alors c'est très gentil, à partir de maintenant, vous leur dites qu'ils nous préviennent d'avance, parce que nous aussi, on a des experts, mais il faut qu'ils nous préviennent d'avance aussi. Et à partir de là, ça a été fini, on a refusé d'y aller tant qu'on n'était pas prévenu d'avance. Ça a commencé à se passer un petit peu mieux.
Voilà, donc vous avez eu du mal à vous imposer, comme tout nouvel arrivant, ça c'est un petit peu... Et alors, si vous permettez, aujourd'hui, on a l'impression qu'à un moment où l'écologie, ou les écologies sur le plan politique sont en véritable recul, paradoxalement et inversement, la conscience, la prise de conscience écologique a fait de grands pas.
Oui. Indéniablement à tous les niveaux. Enfin, par exemple, je suis très très impressionné à quel point la notion de gaspillage alimentaire a progressé à une vitesse folle.
Par exemple.
Parce que ça choque les gens en période un peu de crise. Et bon, voilà, on fait plein de choses pour essayer d'arrêter de gaspiller, y compris dans les écoles, dans les lycées. Les gens sont sensibles à la qualité de l'air et à la qualité de l'eau. Enfin voilà, des choses ont bien bougé. Après, il faut passer du stade où on dénonce au stade où on propose. Voilà, c'est... Étape suivante.
Alors justement, par exemple, on a évoqué encore tout à l'heure le traitement des nitrates à Malvézy. Michel a évoqué un certain nombre d'anecdotes d'ailleurs et de paradoxes peut-être. En tout cas, quel est votre sentiment, vous, à la fois de militante, d'élu, et puis vous avez un regard aussi professionnel sur ces choses-là?
C'est-à-dire que nous, l'usine, on la suit depuis bientôt 30 ans, quoi.
Voilà.
Donc on a un regard intérieur sur ce qui se passe dans cette usine. On gueule tout le temps parce qu'on n'a pas assez d'informations d'ailleurs. L'autre fois, j'ai encore dit au directeur d'Areva, écoutez, soyez sympa quand même. C'est pas la peine que je demande à la CADA Pour qu'elle m'envoie les informations que vous m'avez pas envoyées, je vous ai déjà demandé trois fois. Quoi.
Voilà, la CADA, c'est la commission.
C'est la commission d'accès aux documents administratifs, voilà, qui permet de dire je veux ce document, il veut pas me le donner, c'est un document public, j'y ai droit. Alors la CADA dit au monsieur le maire ou à monsieur le préfet ou à monsieur que sais-je, voulez-vous bien envoyer le dossier? Voilà. Donc, si vous voulez, nous on le suit depuis très longtemps. Ce qui fait que effectivement, clairement, on n'a pas rejoint le mouvement d'opposition complet à TDN. Car ce mouvement est focalisé sur TDN. Ce mouvement n'a rien à dire sur l'usine. L'usine, c'est très bien, il n'y a pas de problème, il n'y a rien. Il y a juste ce morceau d'usine supplémentaire à venir qui pose problème aux gens.
Vous voulez dire qu'ils n'ont qu'une vision, une vision trop partielle des choses?
Ah bah oui. Oui. Moi, tous les gens qui protestent par TDN, vous leur demandez, bon alors, c'est l'usine qu'il faut fermer. Non. Bon, bah, tout simplement, voilà, on va être sympa, quoi. Les gens de Moussan, ils ne peuvent pas avoir une autre attitude. Une bonne partie des gens de Moussan travaillent à l'usine.
Bah oui, bien sûr.
Donc, s'ils avaient attaqué l'usine et non pas seulement ce nouvel machin, ils cassaient le village en deux. Donc, ils pouvaient pas. Donc, la bagarre, elle s'est focalisée aussi parce qu'on leur a expliqué des choses que vraiment, comme vous dites, leurs enfants vont avoir un cancer. Mais moi, j'ai reçu des mails me disant, mais enfin, madame Arditi, c'est pas possible. Vous pouvez pas ne pas nous aider. Vous rendez pas compte. C'est le cancer de nos enfants. Moi, j'ai répondu, attendez, si vous pensez vraiment que TDN, ça, c'est un risque de cancer supplémentaire très important pour vos enfants, alors écoutez, déménagez tout de suite. Parce que c'est déjà le cas depuis 30 ans avec l'usine. Parce que ce que recrache cette usine depuis 30 ans, c'est quand même déjà impressionnant. Même si, je le reconnais, elle a fait des efforts considérables. Les 4 dernières années, par exemple, les rejets de nitrate ont été divisés d'abord par 2, puis encore par diminués par 0,75. Enfin bon, si vous voulez, il faut quand même le dire. Il y a 30 ans, comme je dis en rigolant des fois, la France, c'était le Sud. C'est pas tout à fait le Niger, mais quand même, quoi. Là, la pression qu'on met depuis des années a quand même amélioré les choses. Mais bon, il n'empêche que c'est un site industriel qui est à la fois un site industriel Seveso seuil haut, donc parmi les 600 les plus dangereuses de France, plus une installation nucléaire de base. Enfin bon, voilà, faut pas croire que c'est un joujou pour enfants, quoi. Donc voilà, c'est un vrai objet industriel. Et quand on s'y intéresse à un vrai objet industriel, on en prend pas un petit bout en disant ça c'est pas bien, mais le reste c'est bien. On prend la totalité dans son ensemble.
Oui, vous pouvez définir ce que vous entendez par une installation nucléaire de base ou ce qu'on entend.
Eh ben, c'est une, c'est ici, ce n'est que les déchets les premiers déchets des bassins B1 et B2, les tout premiers qui existaient, dont la digue a lâché en 2004. En 2006, quand il y a eu une grosse inondation, tout n'avait pas été ramené encore, donc ça barbotait dans la plaine. Donc on a été obligé de ramener tout en catastrophe, la terre, les machins, ce qu'on a pu racler tout, on a tout remis dans un truc, on a fermé, on a dit ça, c'est... Bon, il y a tellement de choses là-dedans que c'est pas très joli.
Les bassins actuels.
Voilà. Comment ?
Les bassins actuels.
Non. Les anciens bassins B1 et B2. Voilà. C'est devenu une installation nucléaire de base de déchets. Pour 30 ans, que les gens se rappellent que c'est pour 30 ans, c'est un entreposage. Avant 30 ans, il faudra avoir repris ça dans des bonnes conditions. Il y a déjà eu quand même quelques trucs, parce qu'on s'est aperçu que là, ça allait quand même, ça s'était fait dans des conditions à l'arrache. Donc il y a un mur de 10 mètres de chaque côté pour que l'eau qui traverse les déchets ne part pas de rejoindre le niveau, le réseau hydrographique, la flotte, mais qu'on les récupère en bas d'Elixivia pour aller retraiter cette eau, enfin, etc. Bon, donc voilà, donc c'est un objet industriel qui est pas, c'est pas de la tarte.
Oui,
donc l'idée de s'opposer seulement à un nouveau truc de plus, dont l'objectif, après tout, est quand même de traiter un peu les déchets et de les réduire, ça se discute, quoi, voilà.
Oui, d'où votre réserve, on va dire, par rapport, votre position de réserve dans cette affaire-là.
Je voudrais quand même rajouter une chose.
Oui.
C'est qu'on a une position de réserve, mais quand même, nous, on connaît bien la loi. Donc, quand on a eu regardé le dossier, on s'est rendu compte que les alternatives n'avaient pas été étudiées. Donc, on a envoyé une très belle lettre à monsieur le préfet. On lui a dit, monsieur le préfet, les alternatives, c'est obligatoire de par la loi. Elles n'y sont pas. On vous demande une tierce expertise sur ce sujet précis. Parce qu'on a le droit de demander une tierce expertise bien cadrée, pas sur tout. Et la réponse, le préfet a dit, écoutez, je vais déjà demander à Areva de nous la faire, pas la tierce expertise, mais de nous faire déjà tout ce qu'il a fait. Et on a reçu un document hyper technique de 80 pages, qui m'a été envoyé par le préfet, mais qui a aussi été envoyé à Rubrézus par le préfet. Et c'est à partir de là qu'on a commencé à regarder tout ce qu'ils avaient fait. Voilà.
Et le recours, par exemple, que tente Rubrézus, ça vous semble bien, enfin, ou souhaitable? Quel est votre sentiment là-dessus?
C'est de leur responsabilité. Moi, je me dis que plus on met de la pression sur Areva dans tous les sens, et plus elle est obligée de faire gaffe. Donc, c'est, voilà, c'est pas négatif. Maintenant, je voudrais dire quand même en rigolant qu'il y a une commission de suivi de site à Areva. C'est Orano, hein, bon, enfin, Areva,
oui,
parce que sinon,
Areva, oui, Areva, oui.
Bon, c'est obligatoire parce que c'est une Céveso seuil haut, c'est à cause de ça, sur l'aspect chimique. Il y a donc une commission de suivi de site. Cette commission de suivi de site, elle doit avoir un bureau. Et elle doit avoir, dans le bureau, il doit y avoir une personne des élus, une personne de l'entreprise, une personne des salariés, une personne des associations. Quand j'ai posé ma candidature pour être au bureau de la commission de suivi de site, j'ai été viré. Parce que on avait soigneusement concocté le collège associatif pour qu'il fasse ce qu'on lui dit de faire. D'ailleurs, il y en avait un, il avait vendu ses terrains à Areva, donc évidemment, il était là. Il y en a un deuxième, il avait cet annexe salarié d'Areva, donc il n'y a pas de problème. Il y en a un troisième, c'est quelqu'un qui a été envoyé par la mairie avec mission de se proposer pour être au bureau, donc il n'y a pas de problème. Il y en a, voilà. Donc on avait concocté ça pour être sûr que je sois viré, et j'avais entendu des choses à l'époque, j'y étais pas, c'est bien, j'ai envoyé quelqu'un d'autre pour cette réunion, je pouvais pas y aller, j'avais entendu des choses assez étonnantes, du genre « non mais Arditi, il faut qu'elle arrête d'emmerder Areva, c'est une très belle entreprise, etc. » Bon, alors je rigole parce que depuis, il y en a des un peu plus hard que moi, si je puis dire.
Bon, alors finalement, ça vous fait plaisir de voir ça.
Non mais bon, alors moi, on a réussi à obtenir quand même quelque chose qu'on attend depuis des années, donc ça c'est bien. Voilà, il faut quand même le dire. D'abord, il y a deux choses qu'il faut signaler quand même. C'est que pour la première fois en 30 ans, on a un préfet qui n'a pas signé ce qu'Areva a voulu écrire. Mmh. C'est pas tout à fait rien. C'est la première fois en 30 ans.
Ça ne coulait pas de source.
Ça ne coulait pas de source. Un, on peut en dire ce qu'on veut. Il a tenté les expertises, elles sont ce qu'elles sont, mais il a quand même fait un effort là-dessus. Et deux, Areva a dit « Je veux une norme de 500 mg d'oxyde d'azote par mètre cube ». Il a dit 200, donc il a divisé par 2,5. Sur les COV, ça je lui avais fait remarquer un truc un peu bizarre dans le dossier. Donc Areva en demandait 110 mg par mètre cube, il a écrit 10, donc on divise par 11.
Oui.
Donc voilà, donc ça c'est la première chose qu'on est... Que, voilà, je suis assez critique souvent contre l'État pour dire que cette fois-ci, le préfet a... Voilà. Et la deuxième chose, il a écrit deux petites lignes dans le... qui est « Il y aura un observatoire des rejets d'Areva ». Voilà. Et donc cet observatoire des rejets est en train de se mettre en place. À la dernière commission de suivi de site, le sous-préfet a dit que le préfet souhaitait qu'il soit co-animé à la fois par le sous-préfet de Narbonne, pour que l'État soit présent, et à la fois par moi-même, qui connaissais bien l'installation.
Donc cette fois-ci, vous y serez.
Donc cette fois-ci, ça va partir, et non seulement ça va partir, mais moi, je sais ce que je veux y faire. Donc j'y vais pour effectivement pouvoir, dans 6 mois, 1 an, donner vraiment de l'information au public.
Oui, donc Madame Arditi sera écoutée cette fois-ci.
Ouais,
oui,
enfin,
entendu.
Bon. Voilà.
Entendu.
Alors, de pouvoir effectivement avoir de l'information et être entendu.
Ah, ben bien entendu. Alors, bon, on vient de parler beaucoup de Orano, Areva et
il n'y a pas que ça. Hein,
mais il n'y a pas que ça, c'est ce que j'allais dire. Donc, Marie Zarditi, pour enchaîner, quelles sont les autres affaires sur lesquelles vous travaillez avec votre longue expérience de 3 décennies?
Les deux gros trucs sur lesquels on a travaillé cette année à part Areva, c'est un, la flotte. Vous savez que le préfet doit faire une
distribution d'eau.
Non. Le préfet doit faire une cartographie des ruisseaux.
Ah, les ruisseaux.
Voilà. Alors, cartographie des ruisseaux, c'est un truc qui a été demandé par la profession agricole au plus haut niveau national, qui a été dit royal a dit d'accord. Son objectif, c'est de faire que la part la plus importante de ce qui circule ne soit plus considérée comme des ruisseaux. Là, pas ruisseau. Pas loi sur l'eau, je peux faire ce que je veux dedans, je peux mettre des murs, je peux faire des réserves d'eau, je peux... Et puis surtout derrière, il y a ce qu'on appelle les zones non traitées. C'est-à-dire au niveau européen, il y a un truc qui dit, il faut faire attention à ne pas mettre trop de pesticides et de phytosanitaires dans l'eau, pour pas la polluer. Donc, partout où il y a de l'eau, il faudrait avoir une petite marge de quelques mètres dans lesquelles on ne traite pas. Ah, alors, la marge, c'est 5 mètres, hein, le plus souvent. 5 mètres,
oui,
voilà.
c'est pas énorme.
Mais si vous traitez pas dans ces 5 mètres, il y a moins de chances que ce que vous traitez passe directement dans le ruisseau. Et cette zone non traitée, eh ben, il y a un arrêté préfectoral sur lequel on n'est pas d'accord, qui est vraiment beaucoup trop gentil et beaucoup trop proche de ce que demandaient les agriculteurs. Et donc, on a fait un recours gracieux à monsieur le préfet pour lui dire, on veut pas vous l'annuler, votre préfet. Non, on veut seulement vous l'améliorer. Donc, voilà. Donc, faudrait faire mieux, parce que là, c'est pas possible. On est quand même un des départements où les problèmes de pesticides ne sont pas négligeables. On a des traces de pesticides dans des eaux potables, pas à des niveaux toxiques pour la santé, mais quand même à des niveaux déjà, voilà, qui devraient pas être là. Voilà, Narbonne, ils vont traiter avec du charbon actif pour retirer les dernières molécules. C'est bien. Ça veut dire que le reste, l'environnement reste pollué, mais nous, ce qu'on voit, on va essayer de faire que ce soit le plus propre possible. D'accord, mais moi, je veux pas que l'environnement reste pollué. Autrement dit, il faut quand même se demander pourquoi ça continue, pourquoi on en trouve encore deux fois de l'atrazine, des fois de la sous forme d'atrazine et pas seulement sous forme de décomposé, parce que si elle est décomposée, elle a été mise il y a 10 ans et ça s'est décomposé. Mais si c'est de l'atrazine, c'est peut-être assez récent. Alors, est-ce que, voilà, etc. Donc ça, ça a été un de nos gros trucs qui n'est pas fini, qui va continuer, parce que derrière, alors c'est dans toute la France, hein, là, il y a des départements dans toute la France, MFNE est monté partout dans toute la France, là-dessus, au niveau national. Le deuxième enjeu clé, alors celui-là, quand même, je vous signale que, évidemment, toutes les autres associations dont on a parlé, elles ne s'occupent en fait que de TDN, hein.
C'est ça.
Donc tout ça, voilà, il faut quand même qu'il y en ait d'autres qui s'en occupent, voilà. Le deuxième, c'est les déchets. Alors, Suez, il y a une enquête publique qui s'est terminée, on attend le rapport du commissaire enquêteur. Donc nous, on savait que Suez, vous savez, Suez, il avait le droit d'enfouir dans sa décharge 190 000 tonnes, grosso modo jusqu'en 2019, et 120 000 tonnes après. On se doutait bien qu'il n'allait pas accepter de passer à 120 000 tonnes d'un coup, donc il lève la main et il dit, moi je veux une enquête publique, machin, voilà, je veux 160 000 tonnes. Ça, on s'y attendait. Sauf qu'il n'y avait pas que ça dans l'enquête publique. Ça, c'était d'accord, il y avait ça. Mais il y avait aussi... il va y avoir plein de travaux partout, et nous, on a des bons matériaux. Quand on excave pour faire nos trucs, on a des bons matériaux. Donc on pourrait les vendre. Écoutez, vous les vendez, vous faire des sous, il n'y a pas de problème. Et que là, va pas monter contre là. Sauf que derrière, ils disent... Oui, sauf que nous, ces matériaux, on en a besoin dans l'exploitation. Donc si on les a tous vendus... Faudra qu'on rachète d'autres choses. Et plutôt que de racheter des matériaux, ce qui serait bête, on va proposer à des gens qui ont des terres polluées ou des mâches-fer dont ils ne savent que faire et qui vont enfouir, de venir les enfouir là. Donc on sera payé pour enfouir plus de déchets. Et ce truc, c'était pas négligeable. Hein, ils demandaient 160 000 tonnes. Les déchets supplémentaires en mâches-fer et en terres polluées, 60 000 tonnes. Donc on passait tout d'un coup à 220 000 tonnes. J'ai dit, attendez, là, c'est bon, là, vous arrêtez tout. On a un plan régional qui est en cours. On a une loi sur la transition énergétique qui a expliqué qu'à partir en 2020, il faudra avoir diminué de 30% ce qu'on enfouit. En 2025, il faudra avoir diminué de 50%. Bah, vous n'allez pas commencer à augmenter.
Alors, donc ça, c'est votre chantier actuel également.
Absolument. Ça, c'est notre chantier actuel. Et ça, en gros, si on se trouvait avec les 220 000 tonnes... alors, on va écrire au préfet, on va lui expliquer tout ça. On va lui dire que c'est contraire à la loi, que c'est contraire au plan qui est en train de se mettre en route, que c'est contraire, voilà. Mais si on se retrouvait avec 220 000 tonnes, là, c'est clair, on va au tribunal.
Voilà défini donc clairement vos deux chantiers essentiels. Bien, merci Marie Zarditi d'être venue justement nous expliquer. Peut-être un tout dernier mot sur le regard de l'avenir. Vous restez à la fois confiante, active et vigilante, d'après ce que je ressens.
Oui, le problème, c'est on voudrait arriver. Je sais pas comment on fait, parce que moi, vu mes cheveux blancs et puis on est un certain nombre dans ce cas-là, je voudrais absolument arriver à ce qu'il y ait des jeunes qui s'y impliquent. Mais c'est vrai qu'on fait, nous, on fait un travail de vigilance environnementale. C'est donc pas aussi rigolo que les gens qui emmènent la LPO, elle emmène les gens promener dans la nature. Moi, des fois, les gens, ils me demandent est-ce qu'on fait des balades nature ? Non, voilà, on fait pas des balades nature. Et donc, c'est plus difficile, mais bon, je vais quand même essayer. Il faut quand même qu'on arrive à retrouver, il faut qu'on arrive à rajeunir les cadres, parce que, il y a un moment donné, on n'y arrivera pas sans ça. Mais bon, je voulais dire juste une petite chose. On a fait un truc très marrant cette année, qui était complètement un peu hors de nos normes. On a des amis, c'est la région qui fait un truc comme ça, qui font un truc cinéma et sciences pour tous. Et on m'a proposé de faire quelque chose à Narbonne. Et donc, on a dit, écoutez, On va essayer de voir si on a... J'ai le film « Le jardinier récalcitrant », qui est un truc absolument superbe, écrit il y a 30 ans, il y a un peu, non, il y a 40 ans, mais dont on pense, quand on le lit, qu'on a l'impression qu'il vient de l'écrire en écoutant Monsanto, quoi. Une multinationale qui a la main basse sur toute l'alimentation. Et donc, ce film, il est très chouette, et c'est Jean-Claude Carrière qui en avait fait le truc, et on a essayé de voir si on pouvait faire venir Jean-Claude Carrière. Et donc, on a fait venir Jean-Claude Carrière, et comme je dis en rigolant, alors évidemment, 26 août, hein, c'est une période un peu difficile, car il se trouvait être dans l'Hérault, donc voilà, 26 août, mais enfin, la salle était pleine de chez pleine, il restait pas un strapontin, ni même une place sur les... Il y avait 140 personnes dans la salle, et c'était absolument superbe. C'est un peu à côté de ce qu'on fait, mais comme c'est un film écolo, ça, voilà.
Voilà, donc c'est un petit peu symptomatique aussi d'une certaine réussite de cette action que vous menez. Merci encore, Marie Zarditi, d'être venue donc nous à la fois évoquer tous ces souvenirs et surtout cette action présente et ce regard toujours très vigilant sur le futur. Nous avions pour le prochain invité pressenti Monsieur Alain Baude, qui est le directeur de l'Indépendance. Celui-ci m'a fait savoir hier qu'il avait un empêchement, donc je ne peux pas annoncer pour le moment de prochain invité. La semaine prochaine, par contre, parmi les prochains, citons Alain Péréa, le député, Didier Mouly, donc le maire de Narbonne, Catherine Bossy, ça sera en juin, Marie Batte à propos du Salon du Livre, ça sera en mai, donc on voit que les invités ne manquent pas également. Merci de nous avoir suivis, à la semaine prochaine.